Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Donc j'ai le très grand plaisir d'accueillir ce soir Christian Laval pour une conférence intitulée, alors le titre a un petit peu varié, il y a comme souvent deux titres, le titre de la Société de Philo, le titre qui est sur le site de Mola. Ce soir, le titre, ce serait donc « Néolibéralisme, économie de la connaissance et éducation ». Alors, Christian Laval est sociologue. Il est chercheur associé au Sophia Paul à Paris 10. Il travaille aussi à l'Institut de recherche de la FSU. Et il est spécialiste d'un certain nombre de choses, dont l'utilitarisme, en particulier Jeremy Bentham, mais aussi l'histoire du néolibéralisme, du libéralisme et du néolibéralisme, et les questions d'éducation, parmi les centres d'intérêt, mais il travaille aussi sur Marx, sur le marxisme. Parmi ses ouvrages nombreux, je vous citerai celui de 2004, qui s'intitule « L'école n'est pas une entreprise », le néolibéralisme à l'assaut de l'enseignement public, je crois que c'est ça le sous-titre. L'ouvrage de 2007 intitulé « L'homme économique, les racines du néolibéralisme » et un ouvrage de 2009 qui en fait a déclenché cette invitation plus directement, qui s'intitule « La nouvelle raison du monde » qui a été coécrit avec Pierre Dardot, essai sur la société néolibérale. Voilà, je vous laisse la parole et je salue donc vos camarades de l'appel des appels présents dans la salle.
Voilà. Très content de les voir. J'étais venu il y a quelques semaines, d'ailleurs, pour un autre événement à Bordeaux. Bien, je vous remercie d'être là et je remercie Barbara Stiegler de cette invitation. Et donc, je réponds à l'appel sur une conférence dont, en effet, le titre a varié, puisque j'ai vu sur des sites que c'était tantôt... néolibéralisme et éducation, ce sur quoi j'ai fait pas mal travailler, vous venez de le rappeler, et un autre titre qui était plus vaste, et c'est celui-là que je vais essayer de traiter, qui est néolibéralisme et économie de la connaissance. Et évidemment, c'est un sujet qui est beaucoup plus large, mais qui nécessite qu'on précise un certain nombre de termes, en particulier ceux qui sont contenus dans ce titre. Néolibéralisme et connaissance ou économie de la connaissance. D'emblée, je vous dirais qu'il faut partir d'une série d'observations qu'on peut faire. Nous vivons aujourd'hui un remaniement, j'ai appelé une grande mutation, du champ de la connaissance. Sur ces deux pans, sur ces deux versants, celui de la recherche et celui de l'enseignement, celui de la diffusion et celui de la production des connaissances. Cette mutation que nous vivons a les plus grands rapports, me semble-t-il, avec les transformations en cours du capitalisme, avec la phase dans laquelle nous sommes du capitalisme, en même temps que ces transformations sont contemporaines d'évolution sociale, celle que nous avons appelée l'avènement de la société néolibérale. Pour le dire le plus rapidement possible, il nous semble que aujourd'hui, le champ de la connaissance est de plus en plus régi par la rationalité néolibérale. Les réformes auxquelles nous assistons, que nous subissons, que parfois nous combattons lorsque nous en sommes les victimes, aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche, trouvent dans ce néolibéralisme leur raison. Mais comment définir la rationalité néolibérale? Voilà le point décisif. Beaucoup de mouvements, d'opposition, beaucoup de critiques continuent à penser que le néolibéralisme n'est que le retour de la vieille philosophie libérale, du vieux libéralisme économique à la Adam Smith. En gros, ils y voient la progression du marché contre l'État, l'extension du champ du marché aux dépens de la sphère publique. Finalement, rien n'aurait changé. Il y aurait toujours cet affrontement, cette polarisation entre l'État d'un côté et le marché de l'autre. Et au fond, on aurait une espèce d'extension du marché sans que l'État n'y intervienne, n'y soit pour beaucoup dedans. D'un autre côté, beaucoup voient dans le néolibéralisme une simple politique économique, alors qu'elle relève de l'économie de l'offre, et ou du monétarisme, ce que les économistes reconnaîtront, Peu importe, en tout cas, une interprétation voudrait que ce néolibéralisme soit une politique économique. D'où la difficulté de faire le rapport entre ce néolibéralisme et ce qui se passe dans d'autres sphères de la société, dans d'autres champs d'activité, comme celui de l'université, de l'école ou de la recherche. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle rationalité néolibérale ou néolibéralisme. Dans l'ouvrage que vous avez cité, donc « La nouvelle raison du monde », nous reprenons l'expression de rationalité néolibérale, nous l'empruntons à Michel Foucault, pour désigner un ensemble de discours, un ensemble de dispositifs, en particulier institutionnels, un ensemble de techniques, donc, ou de disciplines, qui conduisent à la transformation du mode de gouvernement des individus, la façon de les conduire. Une transformation également des rapports sociaux, des relations sociales et même des subjectivités, selon une norme générale, qui est une norme de la concurrence, une concurrence généralisée, une logique de concurrence généralisée. Pour le dire plus brièvement, il s'agit d'une logique générale qui tend à transformer l'ensemble des rapports humains, l'ensemble des rapports sociaux sur le modèle du marché et qui vise à transformer les individus, les subjectivités en une sorte d'entreprise, entreprise de soi-même, que nous soyons tous en quelque sorte des entrepreneurs. Donc cette rationalité néolibérale a pour particularité d'étendre en quelque sorte la logique du marché à toutes les sphères de l'existence humaine, y compris la sphère politique. Et c'est en cela que le néolibéralisme ne peut pas être identifié au vieux libéralisme classique, qui distinguait soigneusement une sphère publique et une sphère privée. C'est le domaine de l'État, le domaine de la société. Et c'est cette extension qui affecte profondément l'autonomie, certes relative, d'institutions comme celle de la connaissance. Et c'est là-dessus, évidemment, que j'insisterai aujourd'hui. Plus généralement, cette rationalité néolibérale met en question un certain nombre de principes de fonctionnement de nos vieilles démocraties libérales, en particulier la séparation des sphères, en particulier le fait que nous pouvions, ou nous pouvons encore, soyons un peu optimistes, nous pouvons encore vivre dans des sphères différentes, régies par des principes différents. Or, la rationalité néolibérale met profondément en question cette séparation. Alors, pour résumer les choses et pour être au clair sur ce que nous entendons par là, je vais reprendre les quatre points de notre conclusion, la conclusion de la nouvelle raison du monde, pour bien entendre le sens que nous donnons à cette expression. Donc, premièrement, il y a quatre traits distingués. Premièrement, contrairement à ce que pensaient les économistes classiques, donc le marché ne constitue pas une donnée naturelle. Nous sommes sortis du moment où nous pensions le marché, où les économistes en particulier, ou les philosophes dits libéraux, les libéraux classiques, pensaient le marché comme une donnée naturelle. Aujourd'hui, on peut dire que le marché est considéré comme une réalité à construire. Nous sommes donc loin de cette idée qui était défendue par Adam Smith du cours naturel des choses et qui formait en quelque sorte, qui était le fondement de la légitimité de la politique libérale. Deuxièmement, l'essence de cet ordre de marché ne réside plus dans les principes d'équilibre ou de l'équilibre de l'échange, ou en tout cas, ce qui importe de plus en plus, c'est la logique de concurrence. Construire le marché implique de faire valoir la concurrence comme une norme générale des pratiques. Voilà le point essentiel. La concurrence est devenue une forme générale. Une forme générale, une forme abstraite, si vous voulez, générale, qui doit, en quelque sorte, s'imposer partout et auquel les sujets sociaux que nous sommes doivent se plier, doivent s'ordonner à ce qui paraît être le nouvel ordre auquel il faut se plier. on a développé dans l'ouvrage, mais je n'ai pas le temps ici de préciser, à quel point, par exemple, des néolibéraux européens, allemands plus précisément, les ordo-libéraux, avaient conçu précisément la politique néolibérale comme une politique d'instauration d'un cadre de concurrence dans lequel les agents étaient amenés à s'intégrer et à fonctionner. Donc, loin d'être l'État veilleur de nuit, l'État doit être celui qui instaure, qui met en place le cadre de la concurrence et qui entretient ce cadre par une politique adéquate. Donc, deuxième point, c'était cette logique de la concurrence, l'importance de cette concurrence. Troisième point, ce qui est encore plus nouveau, peut-être, en tout cas relativement à au premier libéralisme, c'est que l'État, finalement, va lui-même s'appliquer la norme de concurrence. C'est le point, je crois, le plus important, peut-être, pour comprendre ce qui va suivre sur la transformation du champ de la connaissance. C'est le fait que le gouvernement néolibéral, la politique, la gouvernementalité néolibérale, pour employer un terme de Foucauldien, c'est précisément l'introduction de cette logique de concurrence à l'intérieur même de la sphère publique, comme une norme précisément qui doit s'appliquer partout au nom de la compétitivité, au nom de l'efficacité, au nom de la performance. Au point d'assister de plus en plus à des formes d'hybridation de la norme privée et de la norme publique, du droit privé et du droit public, à peu près partout. De la même façon, on voit se développer des pratiques de contractualisation qui se généralisent, pas seulement d'ailleurs à l'université ou dans les écoles, mais à peu près partout dans la sphère publique. Donc, une espèce d'intériorisation de la logique de concurrence dans le fonctionnement interne de l'État. Et quatrième point, cette exigence d'universalisation de la norme de concurrence, donc, excède les frontières de l'État, atteint jusqu'aux individus donc, qui sont considérés dans le rapport qu'ils entretiennent aux autres et dans le rapport à eux-mêmes. Ce qui, au fond, paraît peut-être le plus neuf, c'est que la politique néolibérale est une politique qui vise à transformer les individus en individus entreprises, en entrepreneurs de soi-même, d'eux-mêmes. Ça nous concerne, ça concerne de très près notre sujet, parce que l'école, de la maternelle jusqu'à l'université, et j'essaierai de le dire un peu plus précisément tout à l'heure, ces transformations sont commandées aujourd'hui en partie par cette idée que les élèves doivent devenir les agents actifs de leur propre formation, de leur avenir, et le tout commandé par une logique d'employabilité, alors qui prend des formes plus ou moins modérées selon le niveau auquel on s'adresse, mais qui finalement est conforme, une orientation qui est tout à fait conforme à ce que l'on trouve sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire à des logiques justement où chacun est invité à devenir son propre capital humain, à devenir celui qui doit, d'une certaine façon, vivre comme un entrepreneur ayant la charge et la responsabilité donc de multiplier ses compétences, etc. Bon, je préciserai ça tout à l'heure. Donc ces quatre points définissent la rationalité néolibérale et nous allons essayer de voir comment précisément cette rationalité agit dans le champ de la connaissance. Alors, je voudrais préciser ici maintenant comment la forme générale de la concurrence s'applique dans le domaine qui nous intéresse. J'insiste sur ce point. Je crois que nous vivons une époque où la connaissance acquiert une nouvelle forme. Une forme dominante, une forme à la fois abstraite, une forme générale, que l'on pourrait nommer peut-être la forme marchandise de la connaissance, pour parler comme Marx. Une période où également les institutions d'enseignement et les institutions de recherche prennent la forme générale et la forme abstraite de l'entreprise. Alors cela ne veut pas dire, c'est là où c'est un peu compliqué, que toute la production de connaissances est désormais régie par un principe de valorisation monétaire sur un marché. Ça ne veut pas dire qu'on vend toutes les connaissances. Ça ne veut pas dire que les universités, les écoles ne fonctionnent que sur des fonds privés et sont des lieux d'accumulation du capital. C'est évidemment pas le cas. Mais ça veut dire que désormais, les métamorphoses que connaissent ces institutions sont commandées par une forme qui s'appelle, qu'on peut appeler une forme marchandise. Bon, de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit de considérer que désormais, c'est la valeur économique de la connaissance, qu'elle soit celle que l'on distribue, que l'on donne en quelque sorte dans l'enseignement ou celle que l'on crée dans la recherche, c'est la valeur économique qui désormais compte. Nous sommes dans un processus de valorisation économique des connaissances. Et c'est bien finalement le sens que nous pouvons donner au terme d'économie de la connaissance. Ce terme d'économie de la connaissance est très intéressant. C'est un terme qui a une dizaine d'années, ou un peu plus, qui s'est diffusé donc d'abord parmi les économistes, mais aussi qui a pris une importance dans les institutions politiques, dans les institutions européennes, dans les grands organismes de réflexion, par exemple à l'OCDE. C'est devenu une espèce de lieu commun. Alors on ne fait pas en général très attention aux termes qu'on utilise. Certains même y voient un progrès extraordinaire parce que si l'on reconnaît à la connaissance une valeur économique, ça voudrait dire, par exemple, que l'on peut mobiliser des investissements publics, qu'on peut enfin prêter attention à l'importance de ces activités. Je pense, par exemple, au fait qu'un certain nombre de gens très progressistes, de syndicats, etc., y ont plutôt vu quelque chose de positif. Il faut aller plus loin et se demander, finalement, ce que ça signifie. Vous savez que, par exemple, la Commission européenne et le Conseil européen on est décidé à Lisbonne en 2000 de lancer une grande stratégie qu'on appelle la stratégie de Lisbonne et qui visait à faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde en 2010. Bon, apparemment, c'est un peu raté comme objectif. En tout cas, il n'a pas été atteint. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que l'on veut dire par là. Alors, l'économie de la connaissance, je crois que ça dit quelque chose sur la conception dominante que l'on se fait aujourd'hui de la connaissance, précisément. Économie de la connaissance, ça veut dire que, selon moi, que la connaissance est d'abord et avant tout, et peut-être exclusivement, une valeur économique. Et c'est sans doute comme ça que l'on peut aujourd'hui se demander si on n'a pas affaire à ce que Marx appelait précisément une abstraction, c'est-à-dire que on se détache du contenu concret de la connaissance pour n'en retenir que sa valeur d'échange. Juste une petite citation de Marx du livre 1 du Capital. Lorsqu'il écrit ceci, c'est dans ce chapitre, chapitre 5, sur la valorisation, sur le processus de valorisation. Marx écrit « Dans la production marchande, la valeur d'usage n'est absolument pas une chose qu'on aime pour elle-même. On ne produit ici de valeur d'usage que parce que et dans la mesure où elles sont le substrat matériel, le support de la valeur d'échange. » Eh bien, d'une certaine façon, bon, vous voyez l'ironie toujours de Marx, le fait qu'on n'aime pas la valeur d'usage, on peut se demander si dans l'économie de la connaissance, dans ce qu'on pourrait appeler aussi le capitalisme de la connaissance, eh bien, on n'aime pas la connaissance pour elle-même, on aime de moins en moins la connaissance pour elle-même. Je pense même qu'on pourrait trouver beaucoup de traces de détestation de la connaissance pour elle-même, parce que précisément, la connaissance est de plus en plus le support d'une valorisation, le moyen d'un profit. Alors, comment si l'on cherche d'un peu plus près à voir comment cela fonctionne, on peut observer qu'il y a deux sous-catégories en quelque sorte qui fonctionnent. L'une qui vaut pour la recherche et l'autre qui vaut pour l'enseignement. Deux sous-catégories qui me semblent témoigner de cette transformation du sens de la connaissance. Dans le domaine de l'enseignement, la logique de la compétence est devenue progressivement prédominante. Dans le domaine de la recherche, la logique de l'innovation est devenue également prédominante. Ce sont compétences et innovation sont les deux catégories qui ont une portée stratégique. Ce sont elles qui, en quelque sorte, portent la transformation, justifient les transformations, leur donnent leur signification, leur donnent, je dirais, leur structure, leur cohérence. On peut le remarquer dans le domaine de l'enseignement, il est très frappant d'observer que dans tous les domaines, dans le domaine de l'organisation, dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de la formation des enseignants, la compétence, la logique de compétence, je reprends le terme qui est en usage, donc est devenu le terme décisif, le terme qui indique cette forme générale qui s'applique à l'enseignement. Précision, compétence, est un terme évidemment polysémique qui a une signification en droit, qui a des significations très anciennes dans les mouvements pédagogiques, etc. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que en français, dans la littérature institutionnelle, on utilise le terme compétence pour traduire le terme anglais de skills, et plus précisément parce que dans cette littérature, on a moins de pudeur. Lorsqu'on écrit en anglais, on n'hésite pas à préciser que skills veut dire marketable skills, c'est-à-dire des savoir-faire qui sont attendus par les employeurs, les savoir-faire qui sont négociables sur le marché. Pour toute une série de raisons, il convient de le savoir, il y a une espèce de filtre. Lorsqu'on passe au français, une espèce d'euphémisation généralisée pour acclimater des termes qui feraient scandale, ou en tout cas qui pourraient choquer et qui pourraient amener à toute une série de réflexions, voire de refus, en particulier du côté des pédagogues. Traduire par compétence le mot « marketable skills » a évidemment, là aussi, une portée tactique pour faire en sorte que les choses soient un peu plus édulcorées. Donc, voilà, deux pans des transformations, deux pans en tout cas des transformations notionnelles. Compétence d'un côté, innovation de l'autre. Je voudrais dire ici, au fond, faire un petit sondage archéologique, si vous voulez, quant à cette catégorie de la connaissance, cette forme de la connaissance, cette forme marchandise de la connaissance. Elle ne vient pas d'une période très récente, en tout cas, elle peut avoir une histoire, elle a une histoire, et je voudrais donc rappeler, en quelque sorte, les quelques couches, en tout cas, que l'on peut repérer lorsque on essaye de voir d'où ça vient. Au fond, quels sont, dans l'histoire de la pensée, les auteurs qui ont pu nourrir cette conception de la connaissance selon comme forme marchande. En effet, là, je voudrais juste faire un petite parenthèse, mais qui pourrait alimenter nos réflexions tout à l'heure. Au fond, la mise en marché de la connaissance, c'est le sens de cette partie, me semble-t-il, la mise en marché de la connaissance suppose un travail sur les notions, un travail qu'on pourrait dire aussi symbolique. Elle suppose un investissement politique très fort et des transformations institutionnelles. Je crois qu'il faut se débarrasser de l'idée selon laquelle le capitalisme s'étendrait de lui-même par des processus spontanés, comme une espèce d'extension spontanée des lois immanentes du capitalisme, comme aurait dit Marx, sans intervention de l'État, sans intervention politique, sans stratégie. Je crois que de ce point de vue-là, on ne peut plus en rester, je dirais, aux explications de Marx, de Rosa Luxembourg ou d'Hilferding, qui voyaient à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle le capitalisme comme, je dirais, un processus de cannibalisation des sphères sociales, ce qui se ferait en quelque sorte de lui-même, parce que le capitalisme pousserait de lui-même à sa propre extension, à sa propre illimitation, avec une espèce de non-intervention de l'État, avec une certaine forme d'abstention du politique. Or aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai, je pense que vous pouvez tous le voir à travers les réformes qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Je crois qu'il faut tous être extrêmement conscients que ce n'est pas ainsi que ce capitalisme de la connaissance s'étend. Il suppose une très forte intervention de l'État. Il suppose aussi donc des catégories construites. Et c'est ces catégories construites qu'il faut analyser. Alors, il me semble que il y a un certain nombre de couches, si je puis dire, qu'il importe de connaître. Je crois que la première chose qu'on peut repérer, c'est l'héritage utilitariste. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'avais effectivement consacré beaucoup de temps et d'efforts à lire les auteurs utilitaristes, et en particulier de cet auteur que l'on connaît moins bien aujourd'hui qu'on ne le connaissait hier, qui est Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, qui est un philosophe anglais donc de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, avait comme particularité étrange de vouloir étendre le principe d'utilité à l'ensemble des activités, à l'ensemble des domaines. Bon, tout devait être régi par le principe d'utilité, c'est-à-dire non seulement tous les individus donc fonctionnent selon un petit mécanisme qui est la recherche du maximum de plaisir et la fuite de la douleur, mais de plus, c'est ce principe d'utilité qui doit commander les modes de gouvernement. Jeremy Bentham pensait donc à la fin du XVIIIe siècle que l'éducation devait être reconstruite, recomposée, comme toutes les autres institutions, par ce principe de l'utilité. Et il avait inventé, à côté de ces grandes inventions comme le panoptique bien connu, il avait inventé une école nouvelle, d'un type nouveau, qu'il a appelé l'école donc chrestomatique, la chrestomatie étant la connaissance utile. C'était une école qui ne devait enseigner que ce qui pouvait servir. C'était son principe. Le critère absolu, c'était tout ce qui est enseigné doit être utile. Utile au bonheur des individus qui apprennent, aux élèves, mais utile à la société. Donc c'était un principe de discrimination très radical, avec deux aspects. Un aspect très instrumental, bien sûr, donc une connaissance, c'est d'abord finalement quelque chose qui sert à produire du bien-être, et une conception très économique, puisque le coût de l'enseignement, le coût de la production de la connaissance doit être inférieur à ce qu'elle permet de produire. Donc les deux principes, une instrumentalité générale et puis un principe qui aura beaucoup d'avenir, qui est l'application du calcul économique, coût-bénéfice à l'enseignement et à la recherche. Il faut savoir que Bentham donc est quelqu'un d'assez radical. C'est quelqu'un qui pense que finalement une connaissance ne vaut pas pour elle-même. Une connaissance, elle est issue de la pratique, elle est issue de l'art, comme il dit. La science est toujours issue de l'art, et la science n'a d'utilité que dans son application pratique. Hein. Donc, je crois que quand on dit C'est une critique qui revient souvent lorsqu'on dit que les politiques qui sont menées sont guidées par une orientation utilitariste. Je crois que c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de socle, si vous voulez, que l'on retrouve aujourd'hui et qui est en quelque sorte réactivé par les politiques d'aujourd'hui. Bon. Donc un premier niveau qui est cet héritage utilitariste. Deuxième niveau, c'est je crois une conception plus récente qui nous vient en particulier d'un théoricien, alors là proprement néolibéral, qui s'appelle Hayek, Friedrich Hayek, et qui a produit une conception et une théorie de la connaissance extrêmement intéressante, puisque il s'intéresse aux usages de la connaissance dans la société. C'est le titre d'un article fameux de lui de 1945, où, dit-il, il affirme que le problème, je cite, « le problème économique fondamental est un problème de connaissance ». Là, on a déjà ce rapport extrêmement intéressant, ce rapprochement entre économie et connaissance. Mais il va très loin, notre ami Hayek, en disant que le problème économique est un problème de connaissance. Alors, qu'entend-il par là? Que faut-il y voir? Alors, il y a certes des débats sur lesquels on peut passer qui concernent le champ clos, je dirais, des économistes. Retenons que pour ce débat a lieu autour de la question de la planification et du rapport de la planification et de la science. Von Mises et Hayek, qui sont deux économistes d'origine autrichienne et très proches l'un de l'autre, et puis qui ont émigré aux États-Unis ensuite, donc entendent combattre toutes les théories de planificatrices. Et ce qu'ils combattent en particulier, c'est le rapport qu'il y a entre la planification, cette idée de maîtrise de l'économie, et l'idée d'une science qui permettrait de maîtriser les processus économiques. Pour eux, il n'y a pas de connaissance générale qui pourrait servir donc à cette maîtrise de la économique. La connaissance, pour eux, c'est quoi? C'est ça qui nous importe. La connaissance, disent-ils, qui importe en tout cas dans l'économie, ce n'est pas la connaissance scientifique, ce n'est pas la connaissance des lois générales des phénomènes. Tout ceci est peut-être intéressant, mais n'est pas utile, n'est pas efficace dans la vie économique. Ce qui importe, ce sont des connaissances immédiates, ordinaires, la connaissance des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Des connaissances qui permettent donc de faire des jugements et de prendre des décisions efficaces économiquement. Plutôt que de penser donc à des connaissances générales, des lois générales, il vaut mieux donc s'intéresser à la façon dont les agents économiques dispersés dans la société, donc, quel est le rapport qu'ils entretiennent avec les connaissances, comment ils peuvent les mobiliser et quelles sont les connaissances les plus utiles. Qu'est-ce qui importe pour un agent immobilier? Je prends l'exemple d'Hayek. C'est comme ça, les économistes ils s'intéressent aux choses les plus immédiates. Donc, qu'est-ce qui est intéressant pour un agent immobilier? Ce n'est pas du tout de savoir quelles sont les causes de la rareté des logements dans telle ou telle ville, dans tel ou tel quartier. Ce n'est pas de savoir quels sont les processus sociaux qui ont amené telle catégorie sociale à habiter tel quartier, etc. Ce qui intéresse un agent immobilier, c'est l'évolution des prix. Ce sont les variations des prix. Ce sont ces connaissances-là qui sont les plus utiles. Alors, c'est là où Hayek nous importe, et je crois qu'il nous apporte beaucoup quant à la compréhension, si je puis dire, non seulement de la conception que l'on a désormais de la connaissance, mais aussi comment on veut, je dirais, mettre en pratique, mettre en œuvre un système d'information. La connaissance, c'est pour Hayek une information. La connaissance est réduite à son statut d'information qui a un coût et qui a un rendement. Cette connaissance, pour être pratique, pour être utile, elle doit être transformée en un système de prix. C'est la connaissance, La connaissance d'un système de prix, c'est celle qui résume de la façon, je dirais, la plus sensible et celle qui permet d'agir le plus rapidement et qui, surtout, suffit. Si l'on arrivait, dit-il, à transformer toutes les connaissances dont nous avons besoin en un système numérique, ce qu'il appelle un système d'index numérique, nous aurions alors fait un pas considérable dans les progrès de l'action humaine. En d'autres termes, Hayek nous dit un truc extrêmement simple. Transformons ce que nous faisons, les bases de l'évaluation, les bases du jugement, en un système de prix. En d'autres termes, traduisons tout autant que possible en quantité. C'est à partir d'un système quantitatif que nous pourrons décider, juger, agir le plus efficacement possible. Ce qui suppose que nous pouvons ainsi faire l'économie de la connaissance inutile. Et là, on a un point, je crois, extrêmement important à retenir si on veut comprendre ce qui est en train de se passer. C'est que dans l'économie de la connaissance, il faut bien entendre, à la manière des psychanalystes, qu'on veut faire aussi l'économie de la connaissance. L'économie de beaucoup de connaissances inutiles. De connaissances qui prennent du temps, qui sont coûteuses et qui sont censées ne servir à rien. L'économie de la connaissance, il faut l'entendre de cette façon. Je veux dire que Hayek nous indique très précisément dans son texte donc sur les usages de la connaissance qu'il y a des choses que nous pouvons ignorer sans dommage. D'ailleurs, dit-il, il y a énormément de choses que nous faisons sans savoir. Et c'est peut-être les choses les plus importantes. Je veux dire, d'une certaine façon, pour lui, le marché, la monnaie sont des progrès extraordinaires de la société. C'est parmi les progrès les plus grands que les hommes ont fait, précisément parce qu'ils nous épargnent des efforts, en particulier des efforts de connaissance. Là, ça rejoint quelque chose qui traverse tout le libéralisme. Chez Adam Smith, vous vous souvenez peut-être, si vous avez peu fréquenté cet aimable écossais, chez Adam Smith, il y a quelque chose de très intéressant. Il nous dit, au fond, que ce qui est formidable sur le marché, c'est que l'on peut ignorer les fins. Nous pouvons ignorer les fins de l'action. Nous pouvons nous passer de la connaissance des finalités. Et pour lui, c'est précisément cela qui est un principe d'efficacité. C'est ce qu'on appelle en général la main invisible. On retient ça comme la main invisible d'Adam Smith. C'est-à-dire finalement, il suffit d'agir en fonction, je dirais, des circonstances immédiates, en suivant son intérêt personnel. Et ce type d'action nous conduiront finalement à des fins heureuses que nous ignorions et que nous pouvions facilement ignorer, qu'il était peut-être mieux d'ignorer que de connaître. On ne réalise jamais mieux finalement son propre bonheur que quand on ignore ce que nous cherchions. Donc il y a dans le libéralisme classique une espèce de principe d'ignorance que nous retrouvons dans le néolibéralisme austro-américain d'Hayek. Mais si, pour Smith, il s'agissait de s'épargner la connaissance des fins, chez Hayek, il s'agit d'ignorer la connaissance des causes. Donc, on fait un progrès, si je puis dire, on a fait un grand progrès dans l'économie de la connaissance. Troisième niveau, si je puis dire, et troisième couche, qui est extrêmement intéressante également, et qui est plus récente. C'est la connaissance qui n'est plus donc seulement un outil comme chez Bentham, qui n'est plus seulement une information comme chez Hayek. C'est la connaissance qui est considérée comme un capital. Et là, évidemment, on a l'impression de passer, justement, je parlais de Marx et du livre 1 de Marx, on a l'impression de passer, en effet, de la monnaie, du système de prix au capital. On a l'impression de suivre le livre 1 de Marx, du capital. En effet, les connaissances semblent devenir des actifs, des unités accumulables, stockables, valorisables, considérées comme ce que l'on appelle aujourd'hui dans la littérature économique et institutionnelle des actifs immatériels. Alors cette conception de la connaissance comme capital procède d'un, me semble-t-il, d'un geste théorique qui peut être situé dans le temps et qui a été accompli à la fin des années 50 et au début des années 60 par deux Américains, donc Theodore Schultz et Gary Baker. C'est surtout Gary Baker qui est connu pour avoir promu ce concept de capital humain, un concept que on retrouve désormais partout et qui est presque passé dans la langue courante, en tout cas dans le discours dominant aujourd'hui. Beaucoup de gens même l'utilisent sans y voir malice. Alors, de quoi s'agit-il ? Le capital humain serait, d'après ces économistes, donc constitué de compétences, de savoirs, d'expériences, d'atouts personnels, compris des aspects personnels de la santé, d'aspects physiques, etc. Enfin, tout un ensemble personnel, tout un ensemble d'atouts personnels qui ont une valeur, qui sont source d'un rendement financier, d'où le terme de capital humain. Un capital donc qui s'acquiert, qui se renouvelle, qui s'épuise, qui connaît des phénomènes d'obsolescence, qui fait l'objet également d'investissements. Et au fond, c'est une manière de penser, pas seulement la connaissance, c'est une manière de penser l'homme, l'humain, comme un capital, donc comme un fonctionnement de capital. Bon. Alors, cette conception du capital humain, juste deux mots dessus, on la trouve développée de plus en plus sous un autre terme, sous un terme peut-être plus vaste encore, qui est celui de l'immatériel. Et il y a là un texte qui me semble extrêmement significatif et symptomatique de la façon dont on conçoit aujourd'hui la connaissance. C'est un rapport qui a été écrit en 2008 par donc Jean-Pierre Jouyet, qui est aujourd'hui donc responsable de la surveillance des marchés financiers, et Maurice Lévy, donc qui était patron de Publicis à l'époque. Donc deux auteurs qui ont produit un rapport qui était censé orienter la politique de Nicolas Sarkozy en matière d'université et plus généralement en matière culturelle. Donc je vous y renvoie parce qu'il est extrêmement intéressant, on le trouve en ligne aujourd'hui, parce que au fond, il nous donne un certain nombre d'indications assez précises sur la façon dont on conçoit aujourd'hui à la fois l'économie et la culture. Juste un petit extrait. Il est dit dans ce rapport que la véritable richesse n'est pas concrète, elle est abstraite. Elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle. C'est désormais la capacité à innover, à créer des concepts, à produire des idées, qui est devenue l'avantage compétitif essentiel. L'avantage compétitif essentiel. Alors évidemment tout ça c'est une série de lieux communs, mais il importe de les entendre. Au capital matériel a succédé dans les critères essentiels de dynamisme économique le capital immatériel, ou pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance, du savoir. C'est cela l'économie de l'immatériel, disent les auteurs, une économie qui n'a pas de fondement physique, mais qui place les capacités intellectuelles au cœur de la création de valeur. Les capacités intellectuelles au cœur de la création de valeur. C'est notre capacité à créer, à innover, à inventer qui va devenir notre principal critère de compétitivité et notre première source de croissance. Et là, on voit déjà se nouer un certain nombre de choses, en particulier l'articulation entre compétitivité, c'est-à-dire cette logique générale, la forme générale de la concurrence dont je vous parlais tout à l'heure, et la forme nouvelle de conception que l'on a de la connaissance. Alors, je passe sur les points précis, mais je voudrais montrer à quel point cette conception est radicale. Elle est extrêmement, elle ne laisse rien de côté. Tout désormais, pour les auteurs, mais au-delà de ces auteurs, pour les responsables politiques et économiques, tout désormais qui relève de la capacité intellectuelle relève également de la catégorie du capital, c'est-à-dire de la catégorie d'un actif rentable. Et ces auteurs opèrent quelque chose qui est extrêmement intéressant également, c'est une sorte de branchement entre cette conception de la connaissance comme capital et la financiarisation de l'économie. Ils écrivent par exemple que la valeur des entreprises en bourse dépend désormais de la valeur que l'on attribue à la valeur de leur immatériel, de leur capital immatériel. Ils disent ainsi, la valeur des entreprises repose de plus en plus sur des éléments immatériels, parfois quantifiables, parfois moins, par exemple la valeur de leur portefeuille de brevets, de marques, de capacités créatives de leurs équipes. Bon. En somme, il s'agit de montrer pour eux que ce qui fait la valeur des entreprises et ce qui fait l'importance des marchés financiers, et ce qui rend les marchés financiers aujourd'hui absolument indispensables, c'est précisément que la création de valeur se fait sur les actifs immatériels, par les actifs immatériels, qui sont difficilement évaluables en dehors justement de l'estimation des marchés financiers eux-mêmes. Financiarisation, immatérialisation du capital sont pour eux absolument liés. Mais ça va encore plus loin puisque pour ces auteurs, tout le stock immatériel donc d'un pays et pas seulement d'une entreprise, tout le stock immatériel d'une société doit se transformer en actif valorisable, c'est-à-dire en source de revenus. Au fond, il ne s'agit pas seulement des connaissances nouvelles, mais de tout le patrimoine d'un pays. Toutes les œuvres possédées doivent être considérées et valorisées comme des actifs. Il s'agit, par exemple, donc, disent ces auteurs, d'accroître le volume des actifs immatériels privés et publics. C'est un impératif de politique économique. Si tout devient potentiellement immatériel, donc la politique doit transformer l'ensemble de la société, je dirais nos œuvres, les musées, etc., en des sources de rendement. Les musées, les universités, l'ensemble des lieux de connaissance, donc, doivent être considérés comme des entreprises. Ils écrivent ainsi « L'économie de l'immatériel accélère aujourd'hui l'obsolescence de nos institutions, de la connaissance et de la création ». Je crois qu'on ne peut pas dire mieux que ces auteurs. L'exemple qu'ils prennent, par exemple, c'est la transformation du Louvre en entreprise qui parvient à louer les œuvres possédées donc à des musées étrangers et en particulier donc les richesses valorisées donc à Abu Dhabi, c'est leur grand exemple. La France elle-même doit, alors c'est là où ça va extrêmement loin, la France elle-même doit se transformer en marque et en capital. C'est-à-dire qu'on a là, je dirais, quelque chose d'extrêmement étonnant. On se demande finalement si on n'a pas pris énormément de retard lorsqu'on lit ce genre de rapport par rapport aux considérants. Je vous lis juste un extrait parce qu'il m'a frappé. Ils écrivent « La marque France ». Voilà comment ils parlent du pays. « La marque France n'a peut-être pas de réalité comptable. Elle a en revanche une véritable réalité économique. Notre marque France souffre aujourd'hui de faiblesse. Pour le dire autrement, nous n'avons pas un capital marque aussi riche et solide que le mérite notre histoire et nos talents. » Et ainsi de suite. Et il passe en revue donc l'ensemble des richesses. Les territoires, par exemple, sont considérés, doivent être considérés comme des actifs immatériels à valoriser, etc. Alors, je vois que le temps presse et que j'avais plein de choses à vous dire et qu'il reste combien ? 2 minutes. Bon, je ne vais pas vous lasser. J'avais encore 40 pages à vous lire. Bon, donc je vais résumer. Bon, ce que j'aurais voulu vous dire. Bon, c'était ce que j'aurais voulu vous montrer. Au-delà donc de ces couches archéologiques, mais qui me semblent importantes à préciser, c'est comment on bascule d'un modèle public, d'un modèle administratif avec ses dimensions très bureaucratiques, de la recherche et de l'enseignement, à un modèle de marché. Ces processus, on peut les repérer. Pour ce qui est de la recherche, par exemple, il importe de simplement savoir que l'intensification de la concurrence au niveau mondial, ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale, donc, a suscité, engendré une intensification également donc, de la recherche d'innovation. On peut remonter ainsi, on peut décrire la façon dont progressivement la recherche publique est devenue donc une espèce d'annexe, elle a été considérée comme une espèce d'annexe des entreprises, de leur effort d'investissement. Comment, pas seulement en France, mais à l'étranger, d'abord aux États-Unis dans les années 80, comment une série de lois ont permis ou ont favorisé en tout cas une recherche dans des institutions publiques, ont favorisé des recherches dans des institutions publiques directement dépendantes des commandes du marché. Plus encore, il importe de repérer que au début des années 80, aux États-Unis et puis progressivement dans d'autres pays, on favorise une recherche publique qui permet de conserver donc les bénéfices dans les lieux de connaissance et comment progressivement ces lieux de connaissance, en particulier les universités, vont être amenés à se financer par une recherche commandée par les applications économiques. On pourrait montrer ainsi comment aux États-Unis et puis en Europe et en France, avec en particulier la loi ou les lois et les mesures qui ont été prises donc à la fin des années 90 et au début des années 2000, comment on a mis en place donc une nouvelle conception de la recherche dont le principe est la valorisation économique sur le modèle de la recherche. Comment on s'est éloigné des vieilles conceptions, en particulier de celles qui ont prévalu en Europe, qui consistaient au fond à créer un espace d'autonomie certes relative, mais dans laquelle les progrès de la connaissance, on pourrait presque dire les progrès de la connaissance pure, donc devaient augmenter de surcroît, selon une expression du grand scientifique qui était Jean Perrin, cette connaissance devait permettre d'augmenter de surcroît le progrès économique. Souvenons-nous que jamais les scientifiques de la fin du 19e ou du début ou de la première moitié ou encore aujourd'hui ne pensent que la recherche n'a pas de conséquences, n'a pas d'effet. Mais cette expression de Jean Perrin de surcroît est extrêmement importante parce que elle montrait que finalement la logique relativement autonome de la connaissance donc n'était pas, je dirais, n'empêchait pas les applications, mais supposait un moment dans lequel, et des institutions dans lesquelles la pression économique et la pression politique qui en est en quelque sorte le relais, donc ne devait pas donc agir, ne devait pas, je dirais, troubler les programmes de recherche. J'aurais également aimé montrer comment dans l'enseignement aujourd'hui et pas seulement à l'université. On met précisément en œuvre cette logique des compétences et quel sens elle a. J'aurais souhaité, mais j'ai écrit des textes et on peut en trouver évidemment des témoignages et on peut aller directement aux sources. J'aurais souhaité, par exemple, dire quelques mots sur la politique éducative européenne qui, mieux que les textes français, montre à quel point nous sommes dans une phase de réorganisation et de remaniement de l'ensemble de l'enseignement autour de cette forme générale. Les livrets de compétences dès l'école élémentaire, peut-être même dès la maternelle, jusqu'au lycée, peut-être à l'université, donc ne sont pas des outils anodins. dès qu'on les pense, dès qu'on parvient à les intégrer dans une logique générale qui veut que désormais l'appareil d'enseignement soit voué exclusivement, je dis bien exclusivement dans les textes européens, à la production de ressources humaines, c'est-à-dire d'hommes compétents dans la compétitivité, qui est désormais le principe qui régit l'ensemble de nos institutions et l'ensemble de nos sociétés. Enfin, j'aurais souhaité terminer, c'est pour ça que je terminerai comme ça, pour vous dire que finalement, dans la période que nous vivons, on sent bien que les résistances, les refus qui se manifestent, en particulier à l'université, mais bien au-delà, touchent quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que les luttes qui se mènent aujourd'hui ne sont pas seulement des luttes pour les moyens. Il ne s'agit pas simplement de lutter contre la destruction des milliers de postes d'enseignement, quoique ça soit sans doute utile. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre la baisse des moyens dans les institutions publiques de recherche, encore que ça soit fort utile. Je crois que ce que nous pouvons observer, ce que nous pouvons en tout cas ressentir, c'est qu'il y a aujourd'hui donc un processus extrêmement profond de transformation des catégories opératoires, des catégories structurantes du monde de la connaissance. Mais il faut savoir également que ces transformations-là ne sont pas du tout isolées. Elles participent d'une mutation beaucoup plus générale des sociétés et des institutions. C'est ce que précisément nous avons appelé avec Pierre Dardot la nouvelle raison du monde. C'est-à-dire la construction pour nous extrêmement étonnante, bien qu'elle soit sous nos yeux, c'est pas parce qu'elle nous la vivons tous les jours et qu'elle est sous nos yeux que nous la voyons mieux, c'est pour nous extrêmement étonnant, et c'est pour ça que nous avons du mal sans doute à le concevoir, que l'État se transforme lui-même en entreprise. Ce processus est amorcé depuis fort longtemps aux États-Unis, où la théorie du « corporate state » est déjà depuis longtemps en place, l'idée que l'État est une entreprise et qu'il doit être régi selon des normes managériales et enfin propres aux entreprises, que rien ne fait exception à ces normes-là. Si vous voulez, aujourd'hui, et c'est ça qui nous frappe et nous étonne et nous interdit d'une certaine façon, nous laisse interdit, c'est que nous sommes dans un cas de figure, nous sommes aujourd'hui dans une configuration extrêmement nouvelle où les responsables de l'État, les dirigeants de l'État, ceux qui gouvernent, ont entrepris, c'est le cas de le dire, et qu'ils soient de gauche ou de droite, importe peu, puisque c'est précisément le même type de culture qu'ils partagent, ont entrepris de transformer en profondeur les types de fonctionnement, les règles de fonctionnement, les normes de fonctionnement de nos institutions. Et c'est cela à quoi nous avons affaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, on peut aussi comprendre la nécessité des modes de, je dirais, de coalition, d'alliance, entre tous ceux qui espère pouvoir enrayer cette transformation déjà engagée depuis pas mal de temps. La question, mais on n'aura pas le temps de l'aborder, la question c'est de savoir si il s'agit de revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est-à-dire est-ce que la question aujourd'hui c'est de défendre coûte que coûte, je dirais, les types de fonctionnement anciens, avec leurs qualités, leurs avantages, mais aussi leurs défauts, ou si ce n'est pas une période qui devrait susciter chez tous ceux qui sont concernés par ces transformations, eh bien, une imagination, une création, de nouvelles catégories, de nouveaux concepts, peut-être d'imaginer de nouveaux dispositifs qui permettraient de passer, je dirais, à un post-néolibéralisme qui, effectivement, pourrait advenir dans quelques décennies après que cette espèce de grande vague gigantesque qui, aujourd'hui, déferler, continue de déferler sur nos institutions sera passé. Mais comme vous l'entendez bien, je pense que ça prendra énormément de temps, que nous sommes très loin d'être sortis, très très loin d'être sortis du néolibéralisme, que les crises économiques ne l'enrayeront pas, même si elles se multiplient et même si les États sont dans des situations de plus en plus dramatiques sous la pression des marchés financiers, parce que c'est exactement ça qui est en train de se passer, avec des réformes de plus en plus radicales qui visent à désocialiser l'enseignement, les retraites, la santé. Malgré tous ces processus en cours, je crois que nous sommes très loin aujourd'hui d'en sortir. Nous ne sommes peut-être qu'au commencement du processus, particulièrement en France, mais ça ne nous empêche pas de garder l'espoir, même si c'est extrêmement loin, et surtout de mobiliser nos capacités créatives pour penser à quelque chose d'autre, à un nouveau type de rapport humain, à de nouvelles formes de subjectivité, à de nouvelles formes de collectivité, de solidarité et de fraternité. Merci à vous.
Merci beaucoup.